en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bonjour et bienvenue dans cette émission en habit vert. Nous célébrons en 2009 le centenaire de Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue qui a marqué le XXe siècle en France et dans le monde. Pour évoquer ce personnage, membre de l'Académie française, je reçois Jean d'Ormesson qui fut lui-même son parrain à son entrée à l'Institut. Merci Jean d'Ormesson d'avoir accepté notre invitation. Claude Lévi-Strauss est connu non seulement pour être un grand anthropologue, mais aussi un grand philosophe. Que retenez-vous de l'apport philosophique ?
L'œuvre de Lévi-Strauss est évidemment une œuvre considérable. C'est un homme qui a bouleversé le paysage. C'est un homme qui a fait... Vous savez, je suis très incompétent dans ce domaine, mais il a fait entrer l'autre dans notre vision. Notre vision était naturellement anthropomorphique, chauviniste, axée sur nous-mêmes, refermée sur nous-mêmes. Caillois avait voulu l'ouvrir par une espèce d'échange, mais il n'est pas tout à fait sûr que l'échange se faisait sur un pied d'égalité parfaite. Tandis qu'avec Lévi-Strauss, c'est une espèce de mondialisation de l'ethnologie avant la lettre.
Y a-t-il un livre que vous retenez plus que les autres dans
l'œuvre ? Il y a un livre, moi celui que je retiens, parce que c'est le livre le plus littéraire, parce que c'est non seulement un livre scientifique important, mais que c'est un livre qui a sa place à jamais dans la littérature, c'est Triste Tropique. Et vous savez, Triste Tropique a un formidable avantage. Comme très peu de livres, comme quelques livres, peut-être La Chartreuse de Parme. Le 26 mai, je ne sais plus la date, le Monde apprend que César et Alexandre ont un successeur, qui est Bonaparte, évidemment. Le début de Proust, que tout le monde connaît, longtemps je me suis couché de bonheur. Le début d'Aurélien d'Aragon, la première fois qu'Aurélien vit Bérénice. La première fois qu'Aurélien vit ou rencontra Bérénice, il la trouva franchement laide. Et le début de Triste Tropique, je hais les voyages et les explorateurs. Et ça, quand un début de livre, un incipit, se présente avec cette force, c'est que c'est un ouvrage considérable.
Quelle avait été la réaction de l'Académie française à l'arrivée du premier anthropologue dans une cour d'hommes de lettres ?
Oh, ça, vous savez, est-ce que l'Académie est vraiment une cour d'hommes de lettres ? Vous savez, je crois qu'il y a tout dans l'Académie, aujourd'hui plus que jamais, mais il y a toujours eu tout. Il y a eu des maréchaux, il y a eu des amiraux, il y a eu des avocats, il y a des médecins, il y a eu des gens de cinéma, il y a eu des gens de théâtre, il y aura peut-être des chanteurs, il y aura peut-être des dessinateurs, et il y a même quelques écrivains.
Parlons à présent, Jean d'Ormesson, de Roger Caillois, éminent intellectuel que vous avez bien connu avant même l'Académie française, qui aurait dû être un proche de Lévi-Strauss, et pourtant, les deux hommes se brouillent. Il reste une querelle ontologique. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit mot ?
Roger Caillois, qui a un parcours très étrange, était un surréaliste. Il avait fréquenté beaucoup le groupe surréaliste et il s'était séparé des surréalistes sur une scène fameuse qui est la scène des haricots sauteurs au café Cyrano. Au café Cyrano, on avait apporté de ces petits animaux, vous savez, de ces petites graines mexicaines qui sautent. Et naturellement, elles sautent parce qu'il y a un animal dedans. Et les surréalistes étaient enchantés par ces haricots sauteurs quand ils ont entendu un des leurs, qui était Caillois, dire « si on les ouvrait pour voir ce qu'il y a dedans ». Déjà, le rationaliste perçait derrière le surréaliste. Naturellement, ça a fait scandale. Et Caillois s'est éloigné de plus en plus des surréalistes pour aboutir à un rationaliste extrême qui finira par une espèce de mystique du silence et des pierres. Et Caillois, en dehors de toutes ses activités intellectuelles et parallèlement, était fonctionnaire de l'UNESCO. Et moi-même, j'étais arrivé tout à fait accidentellement à l'UNESCO pour un stage de quelques semaines. Et Kaiwa avait déjà l'idée de lancer une revue littéraire. Et cette revue littéraire, pour dire les choses très très rapidement, était fondée sur l'idée que la science moderne refusait la synthèse et la science moderne de l'époque refusait la synthèse et allait de plus en plus loin dans l'analyse. Et Kaiwa avait l'idée de revenir à une forme de synthèse qui ne soit pas dogmatique, mais qui soit constituée par une sorte d'interdisciplinarité qui irait beaucoup plus loin que de mettre l'une à côté de l'autre les différentes disciplines, mais de faire jeter des regards croisés entre les différentes disciplines. Son idée était au fond d'avoir un biologiste qui parle de la psychanalyse, d'avoir un historien qui parle d'économie et d'avoir un poète qui traite des mathématiques. Voilà ce qui l'intéressait.
Vous avez travaillé combien d'années avec lui à ses côtés pour la revue Diogène ?
Eh bien, je suis entré auprès de lui pour quelques semaines pour un stage et je suis resté 30 ans. J'ai été le second de Kaiwa et je l'ai remplacé à la tête de cette revue qui s'est appelée Diogène. L'idée primitive de Kaiwa était de reprendre une revue. Je me rappelle que nous avons, au début des années 50, nous avons eu des négociations avec différentes revues, notamment avec une revue savante qui s'appelait Erasmus, qui était une revue très, très célèbre. Et finalement, Kaiwa a créé sa revue, qui était une revue du Conseil de la philosophie et des sciences humaines, qui était une ONG à l'UNESCO, une revue qui était aidée par l'UNESCO et qui a été longtemps publiée par Gallimard. Et cette revue a tenu un rôle honorable pendant près d'un demi-siècle. Elle existe encore. C'est une très, très longue durée pour une revue scientifique.
Revenons à présent, Jean d'Ormesson, à cette querelle entre Claude Lévi-Strauss et Roger Kaiwa. Qu'est-ce qui a été à l'origine de leur désaccord ?
D'abord, les deux hommes ne sont pas comparables. Lévi-Strauss est un homme qui a une réputation internationale. C'est probablement le savant français qui a la plus grande stature aujourd'hui, probablement celui qui est le plus reconnu en Amérique et dans le monde entier. Et ce n'est pas seulement parce qu'il a atteint 100 ans. Lévi-Strauss est une espèce de monument de l'ethnologie française. Kaiwa n'a pas d'étiquette. Ça lui a beaucoup nuit. Kaiwa n'est pas philosophe. Kaiwa était agrégé de grammaire. Il aurait pu répondre comme ce personnage de Jules Romain, je crois, qui ont dit « Mais pourquoi est-ce que tu as fait une agrégation de grammaire ?» Et il répond « Parce qu'il n'y a pas d'agrégation d'alphabet. » Et Kaiwa était un esprit extraordinairement brillant, mais ce n'était pas un philosophe. C'était à peine un sociologue. Il s'est beaucoup occupé de sociologie, mais il n'était pas du clan des sociologues. Et il a écrit des ouvrages de fiction, comme Ponce Pilate, qui est une nouvelle merveilleuse. Ponce Pilate, au lieu de condamner le Christ, le relâche. Il décide qu'il est innocent et il le relâche. Naturellement, le christianisme n'a pas lieu. Il n'y a plus de christianisme et il y a simplement un mage qui s'appelle Marduk, qui est un mage babylonien qui délire et qui raconte des histoires invraisemblables qui sont l'histoire du monde réel, mais qui apparaissent comme une espèce de délire puisque le christianisme n'a pas lieu. Et donc c'est un philosophe, c'est un sociologue, c'est un romancier, c'est un savant, il s'est beaucoup occupé de Pierre, des méduses, de la menthe religieuse. C'est d'une certaine façon un biologiste, d'une certaine façon un minéralogiste. Mais en même temps, il n'est rien de tout ça. Et il est évidemment beaucoup plus oublié que Lévi-Strauss qui règne dans la gloire. Et il y a eu entre eux, en effet, une bataille, une querelle. Kaiwa était très intransigeant, ce Diogène. Je me rappelle qu'il avait eu avec des classicistes, avec des grammairiens, avec des historiens de la littérature, des querelles assez vives. Parce que si on lui envoyait un très bon texte d'histoire de la littérature française, de philosophie, d'histoire, il les refusait. Mais moi, j'étais affolé. Moi, j'étais très jeune. J'étais déjà très indulgent. Et je me disais, mais c'est un texte excellent. Il me disait, oui, mais il ne correspond pas à Diogène. Je veux des choses interdisciplinaires. Et donc, c'était cette idée des regards croisés. Et il était assez proche de Lévi-Strauss, en ce sens que l'un et l'autre s'intéressaient à la diversité des regards et à l'échange des regards entre les civilisations. Mais nous avons peu de temps pour dire les choses très très vite. Je dirais que Lévi-Strauss était tout de même très influencé par Rousseau et que Caillois était tout de même très influencé par Montesquieu. Et au fond, la querelle Lévi-Strauss-Caillois, c'est la querelle Montesquieu-Rousseau. Lévi-Strauss a écrit pour l'UNESCO un petit ouvrage très intéressant qui s'appelait « Race et histoire » que Caillois a assez sévèrement critiqué. Caillois, au fond, était persuadé qu'il fallait l'échange entre les différentes cultures, mais il était imprégné de culture classique. Et la culture grecque, la culture de la Renaissance, la culture du classicisme français, c'était pour lui le sommet de l'esprit humain. Et il a attaqué assez vivement ce qui pouvait lui apparaître comme l'idéologie du relativisme chez Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss a répondu. La vigueur de Caillois était déjà inhabituelle. Et Lévi-Strauss a répondu avec une violence tout à fait inhabituelle chez lui, qui est si courtois et si mesuré. Et il a publié un petit livre qui s'appelait « Diogène couché ». Et naturellement, ça a été une bataille à couteau tiré entre Lévi-Strauss et Caillois. Et moi, j'étais quand même très jeune, j'admirais éperdument Caillois, j'admirais beaucoup Lévi-Strauss, et j'étais un peu épouvanté par cette querelle. Et puis voilà que 20 ans plus tard, Lévi-Strauss et moi, nous nous présentons presque en même temps à l'Académie. Je ne fais pas de comparaison entre Lévi-Strauss et moi, soyez-en sûrs. Il y avait deux morts à l'époque, on peut se rappeler les dates facilement. Jules Romain était mort à une date désastreuse pour un écrivain. Il était mort le 14 août 1972. Désastreux parce que le 15 août, tout le monde est parti en vacances, les journaux ne s'occupent plus de rien. C'est très grave pour un écrivain. Vous savez, un écrivain doit surveiller tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il dit et même la date de sa mort. Eh bien, 14 août, c'était une mauvaise date pour mourir. Et la date de Monterland est facile à se souvenir aussi. Il s'empoisonne et il se tire un coup de pistolet pour être sûr de ne pas se rater. C'est le jour de l'équinoxe de septembre, le 21 septembre. Et Caillois, j'avais pensé me présenter au fauteuil de Monterland, mais Lévi-Strauss s'est présenté en me prévenant avec une courtoisie infinie. Il s'est présenté au fauteuil de Monterland, je me suis présenté au fauteuil de Jules Romain. Et à ma stupeur, j'apprends que Lévi-Strauss a demandé à Caillois, qui était de l'Académie, de le recevoir. Ce qui est vraiment une élégance qui ne surprend pas de la part de Lévi-Strauss. C'était une grande élégance, c'était la réconciliation académique après la querelle. Et évidemment, les deux discours m'ont passionné. Je connaissais Caillois pour l'avoir fréquenté tous les jours en 1974 pendant 20 ans. Et je connaissais un peu comme tout le monde et j'admirais éperdument Lévi-Strauss. Et évidemment, je n'ai pas été déçu par cette journée extraordinaire.
Est-ce que Lévi-Strauss a été étonné du discours de Kaiowa ?
Je pense que oui.
Il n'a pas pu répondre ?
Je pense que oui, il n'a pas pu répondre, puisque Lévi-Strauss a parlé le premier, puisqu'il était celui qu'on élisait, et Kaiowa, qui le recevait, a parlé le second. Donc, il n'était pas question pour Lévi-Strauss de répondre. Je ne sais pas, mais vous devez le savoir peut-être. Est-ce qu'ils avaient échangé leur discours avant ? Je ne le sais pas. En tout cas, le discours de Lévi-Strauss était un discours extrêmement classique et très, 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 très beau. Et le discours de Kaiowa était très courtois, mais ne cachait pas un certain nombre de réserves à l'égard de Lévi-Strauss. En gros, ce qu'il lui reprochait, au fond, c'était d'avoir créé un système. Et Kaiowa n'était pas un homme de système. Voilà. Et il lui reprochait un peu d'avoir durci un peu les choses. Évidemment, Kaiowa, lui, il était sans cesse dans le... Il n'avait pas de corps de doctrine. C'était un esprit qui marchait par cohérence, par paradoxe, par réponse, par récurrence dérobée. C'était un homme du labyrinthe.
Merci Jean d'Ormesson de nous avoir apporté votre regard sur Claude Lévi-Strauss, dont nous célébrons le centenaire, de nous avoir parlé de Roger Kaiowa, mais aussi de Diogène et de l'Académie française. Alors vous pouvez retrouver toutes les émissions concernant Claude Lévi-Strauss, Roger Kaiowa ou Jean d'Ormesson sur notre site web canalacademy.com.